Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et tout le monde. À demain, même heure, même endroit. Nous, c'est parti. Ravi de vous retrouver. Le 18 20 de France Inter est ouvert et il est tout chaud. Bienvenue sur la planète et sa banlieue. Le premier grand journal de la soirée est signé Amélie Perrier comme il se doit. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi 7 octobre commence avec un nouveau coup de poing d'activistes pour le climat.
Contre l'inaction des dirigeants face au réchauffement climatique, des militants prônent la désobéissance civile. Action coup de poing partout dans le monde aujourd'hui de la part d'Extinction Rebellion. Nous irons dans le centre de Paris. L'Américain Donald Trump commence à retirer ses troupes de Syrie et l'on craint une attaque imminente de la Turquie contre les Kurdes. Une politique sans coup de menton et sans naïveté, c'est le credo d'Édouard Philippe, le Premier ministre, à l'ouverture du débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale cet après-midi. Des pesticides dans les trois quarts de nos logements, l'ANSES nous alerte sur tous les antipuces, anti-moustiques et pesticides de nos plantes d'intérieur. Et puis, le Nobel de médecine décerné aujourd'hui à des Américains et un Britannique pour leur recherche sur la privation d'oxygène dans nos cellules. Concrètement, cela pourrait faire avancer la lutte contre le cancer. De la pluie au nord, du soleil au sud, la météo à la fin de ce journal avec Élodie Calac.
À 18h15, un jour dans le monde, les mondiaux d'athlétisme de Doha sont finis et Kevin Mayer l'a peut-être le mieux résumé. C'était une catastrophe, trop chaud, trop vite et d'autres qualificatifs encore. Pas très vite justement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut repenser les compétitions sportives dans ce pays ou soyons honnêtes, qui d'autre peut aujourd'hui financer des compétitions pareilles? On en parle avec nos invités. Le bruit du monde est en Autriche ce soir qui cherche son identité. Et puis 19h20, le téléphone sonne, on donne la parole au premier arrivé et dernier parti dans les écoles, ceux qui doivent gérer en plus de leur classe ou demi-classe les tracas administratifs, les réformes en cours, les bobos dans la cour et les radiateurs en panne. Ceux qui ont pris un coup dans l'estomac après le suicide de Christine Renon. La parole au directeur d'école au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils ont promis de faire parler d'eux partout sur la planète.
Les militants écologistes d'Extinction Rebellion ont lancé aujourd'hui 2 semaines d'action. Et pour cette nouvelle génération de protestataires, pas question de simple rassemblement ou de marche pour le climat. XR, leur diminutif, prône la désobéissance civile. Des actions spectaculaires, quitte à être hors la loi. Bonsoir Célia Kiré.
Bonsoir Amélie.
Alors vous avez suivi les militants à Paris, jusqu'au dernier moment ils ont gardé le secret et vous ont donné rendez-vous à Châtelet, c'est en plein cœur de Paris.
Oui, effectivement, ils ont réussi en milieu d'après-midi à bloquer toute la place du Châtelet et le pont au Change. Alors ce n'est pas noir de monde, mais c'est assez symbolique. Ils sont couchés au milieu des voies, autour de bottes de paille, de filets de pêche. Et certains, comme Anne-Charlotte, venue de Lille, sont même attachés à un bateau qui est posé sur le pont. Et sur ce voilier, un DJ qui mixe, ambiance volontairement festive.
En fait, on est attaché de manière assez complexe à un bateau. Et l'idée, c'est que ça va être très compliqué de nous déloger parce qu'il va falloir scier le bateau. On est harnaché avec un système à l'intérieur, en fait, on ne peut pas nous déloger. Le but, c'est qu'on soit tous ensemble, unis dans ce combat-là qui nous concerne tous, hein, parce qu'on va vers une extinction de masse et ça nous concerne tous.
Et sur le fond, ces militants non-violents ont des revendications bien précises. Karine est venue de Rouen, elle a posé des jours de vacances pour cette rébellion.
On a 3 exigences au niveau international. Donc la première exigence, c'est que les gouvernements, les États, reconnaissent l'urgence climatique. La deuxième chose, c'est de demander la neutralité carbone en 2025.
Et pas en 2040 ou 2050 ?
Non, parce que ça sera trop tard. Tous les rapports le disent. Le dernier rapport du GIEC est sorti en septembre et est toujours aussi alarmant, voire plus alarmant que celui d'avant. Et troisième chose qu'on demande, c'est que la population soit concertée pour prendre les bonnes décisions et faire évoluer les choses.
Comme quoi la Convention citoyenne pour le climat ne suffit pas en ce moment à convaincre que le gouvernement agit. Des actions surprises sont prévues toute la semaine pour cette rébellion internationale d'octobre.
Le reportage en direct de Célia Kiré avec Raymond Alboué à la technique. Merci à vous deux. D'autres actions donc ont eu lieu à Sydney, en Inde, à Berlin ou encore à Londres où Extinction Rebellion est née l'an dernier. Et vous rendez-vous sur franceinter.fr. Nous avons suivi un stage de préparation à la désobéissance civile avec les XR. C'est un reportage à découvrir sur notre site. À l'étranger encore, les États-Unis ont commencé à se retirer de Syrie ce matin près de la frontière turque. Les forces kurdes, qui dirigent désormais de façon autonome le secteur, craignent le pire. Après le départ des Américains, la Turquie a l'intention de lancer une offensive contre les Kurdes. Istanbul les considère comme des terroristes. L'ONU s'attend au pire si un nouveau conflit éclate. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Washington. Alors la décision de Donald Trump de sortir les soldats américains de Syrie fait débat, y compris dans son camp.
Oui, vous avez par exemple l'influent sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham. C'est un proche de Trump, même s'il a souvent critiqué sa politique étrangère, qui dit que c'est une décision irresponsable et à courte vue. L'abandon des Kurdes serait une tache sur l'honneur de l'Amérique. Nikki Haley, ex-ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, qui, à propos des Kurdes, dit les abandonner, les laisser mourir serait une énorme erreur. Vous savez, Amélie, tout ça rappelle un peu la démission du secrétaire à la Défense, Jim Mattis, qui au début de cette année avait rendu son tablier parce qu'il trouvait absolument insupportable l'idée que les États-Unis puissent ainsi abandonner leurs alliés. Enfin, il y a ces mots très durs de Brett McGurk, qui jusqu'à la fin de l'année dernière était l'émissaire de Trump en charge de la lutte contre l'État islamique, et il dit ceci: Trump n'est pas un commandant en chef, ses décisions sont impulsives et démontrent une totale incompréhension de ce qui se passe sur le terrain.
Alors justement, Grégory, pourquoi Donald Trump retire-t-il ses troupes maintenant ?
Alors, c'est une rhétorique qu'on a déjà entendue dans la bouche du président américain. Il est temps pour les États-Unis de se retirer de ces guerres sans fin, coûteuses, de ramener les soldats à la maison. Trump laisse le soin à la Turquie, à l'Europe, à la Syrie, aux Kurdes et aux autres acteurs régionaux de résoudre la situation, et aussi le cas des djihadistes emprisonnés. Les États-Unis abandonnent donc à leur sort les Kurdes et les forces démocratiques syriennes, leurs alliés dans la lutte contre l'État islamique, dont Trump juge qu'il est éradiqué à 100%, ce qui reste évidemment à vérifier sur le terrain. On note enfin, Amélie, que la décision a été annoncée tard hier soir, juste après un entretien téléphonique avec le président Erdogan. Tout ça ressemble à un cadeau au pouvoir turc, ce dont le président américain se défend dans un tweet publié il y a 20 minutes. « Je promets que si Ankara dépasse les bornes, alors j'anéantirai, je détruirai l'économie turque. » C'est ce que Trump écrit en précisant qu'il prendra sa décision en s'appuyant sur, je cite, une sagesse grande et incontestée de sa part.
Merci beaucoup, Grégory Philips, en direct de Washington. L'armée irakienne, elle, admet pour la première fois avoir fait un usage excessif de la force contre le mouvement de contestation. Depuis une semaine, les manifestations à Bagdad contre la corruption et le chômage tournent au bain de sang. Une centaine de personnes tuées et plus de 6000 blessés. Une force paramilitaire proche des chiites et de l'Iran se dit prête à intervenir pour empêcher un coup d'État si le gouvernement lui ordonne.
Il est 18h07 sur France Inter. En France, l'Assemblée nationale débat de l'immigration.
À la demande du président Macron. Son ambition, faire en sorte que la France ne soit pas moins accueillante, mais pas forcément plus attractive non plus. Illustration supplémentaire du « en même temps » macronien. Parmi les 6 axes de travail proposés par le gouvernement, une réforme des aides sociales offertes aux demandeurs d'asile. L'AME, l'aide médicale d'État, sujet clivant par excellence. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Alors justement, le débat est-il aussi clivant, aussi âpre qu'attendu ?
Pas tellement. On nous avait promis alors des cris, des indignations, des imprécations. Ça a mis un petit peu de temps à venir, mais dans le genre, Jean-Luc Mélenchon n'est jamais décevant.
Le président a osé dire que les milieux populaires n'avaient pas la chance qu'auraient les bourgeois de ne pas fréquenter les étrangers. C'est son vocabulaire, pas le mien. Le pays mérite mieux. Car les bourgeois, figurez-vous, fréquentent aussi les étrangers. Mais ce ne sont pas les mêmes. Ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils appartiennent à la même classe sociale. Quant aux milieux populaires, ils ont été parqués de force aux mêmes endroits. Vous voulez mieux mélanger les populations ? On y sera favorable. Mais dans l'intervalle, pourquoi stigmatiser ceux qui s'y trouvent ?
Alors en réalité, c'était plutôt une succession d'interventions de plutôt très bonne tenue, à commencer par celle du gouvernement. La plus applaudie étant celle de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a remis les pendules à l'heure sur les fantasmes autour de l'AME, l'aide médicale d'État.
Les frais de cure thermale, les actes de PMA ne sont pas pris en charge par l'AME. Les frais pris en charge en grande partie par les complémentaires santé, tels que les frais dentaires ou optiques, ne sont pas pris en charge par l'AME. Par ailleurs, les soins à visée esthétique ne sont pas en pris en charge par l'assurance maladie. Ils ne sont évidemment pas pris en charge par l'AME. Oui, en France, on ne laisse pas des personnes périr parce qu'il leur manque le bon tampon sur le bon document.
De la part du gouvernement, effectivement, pas de coup de menton, mais pas d'annonce non plus. On a le sentiment d'un débat assez vain. D'ailleurs, il n'y aura pas de vote.
Laurence Perron avec François Rivalan aux moyens techniques. Merci. Marine Le Pen, avant même l'ouverture du débat, n'a pas hésité à faire l'amalgame entre ce débat donc sur l'immigration et l'attaque à la préfecture de police de Paris, ainsi qu'avec le fondamentalisme religieux. La présidente du Rassemblement national affirme que l'assaillant fréquentait des mosquées radicales dont un imam a été expulsé du territoire tant ses positions étaient choquantes. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Lui sera entendu à huis clos par les parlementaires de la délégation au renseignement demain. Et jeudi, c'est la commission des lois qui l'entendra. Le procès Karachi a ouvert cet après-midi, 25 ans après les faits, sur le banc des prévenus. 6 hommes, dont l'ancien directeur de campagne d'Edouard Balladur, Nicolas Bazi, ou encore l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine. Ils sont accusés d'avoir organisé et touché des rétrocommissions sur la vente de frégates et de sous-marins au Pakistan et à l'Arabie Saoudite. Les fonds occultes pourraient avoir financé la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 1995.
Et puis cette question, Amélie, y a-t-il eu un autre suicide dans l'éducation nationale quelques jours avant celui de Christine Renon?
Christine Renon, cette directrice d'école à Pantin, qui s'est donné la mort dans son établissement après avoir décrit l'enfer de ses conditions de travail dans une lettre. Aujourd'hui, dans le Puy-de-Dôme, on apprend qu'un professeur de 52 ans s'est pendu chez lui début septembre. Selon son fils, il a laissé une lettre. Il y parle de harcèlement et met en cause la direction de son établissement. Sa profession était devenue une souffrance, nous dit son fils.
Ça fait 3-4 ans que je vois un peu, enfin, c'est pas son état de se dégrader, mais c'est son métier se dégrader, si vous voulez, parce que son métier, avant tout, c'était une passion. Il faisait paraître qu'il allait bien, il gardait vraiment tout pour soi, et il encaissait un maximum, donc j'étais loin de m'imaginer un tel acte. Il s'est plaint beaucoup de fois d'appels téléphoniques, de mails, tard le soir, le week-end et même pendant les vacances, donc c'était des mails avec beaucoup de pression. C'est un peu comme dans une entreprise, si vous voulez. Il faut un résultat rapide, il faut pas traîner, quoi. Voilà. En premier lieu, j'aimerais bien qu'il y ait une enquête. C'est pour ça que j'ai écrit à Monsieur le procureur de la République. Ensuite, j'aimerais que le rectorat fasse le nécessaire concernant les personnes qui ont été citées dans la lettre qu'a rédigé mon père. Voilà, que ces personnes aient des sanctions. J'aimerais aussi faire un message, on va dire, pas national, mais qu'il y ait plus de monde qui soit prévenu et que l'État fasse le nécessaire concernant la prévention de ces suicides. Et dernière chose, j'aimerais que le suicide de mon père soit reconnu en tant qu'accident du travail. Voilà.
Et la souffrance sur les bancs de l'éducation nationale, on en reparle dans le téléphone sonne avec vous tout à l'heure, Fabienne Saintès. Ils sont partout, même dans votre salon, dans la chambre des enfants, les pesticides domestiques. L'ANSES, l'agence sanitaire, publie aujourd'hui une photo pour le moins inquiétante. L'étude de terrain baptisée PestiHome révèle que les 3/4 des ménages ont utilisé un pesticide chez eux dans les 12 derniers mois. Explications et recommandations avec Jean-Luc Volatier. Il est le directeur adjoint de l'évaluation des risques à l'ANSES.
Quand on utilise un spray contre les insectes volants, une fois qu'on l'a appliqué dans une pièce, il faut ressortir de la pièce tout de suite. Après quelques minutes, quand on rentre dans la pièce, il faut tout de suite aérer la pièce. De même, il ne faut pas caresser, être en contact prolongé avec son chien et son chat une fois qu'on a utilisé un produit anti-puce pour protéger son chien ou son chat. L'ANSES rappelle qu'il ne faut pas jeter à la poubelle ni vider dans l'évier les pesticides qu'on utilise à domicile. Il faut les déposer à la déchetterie. C'est d'autant plus important que l'étude PestiHome montre que 60% des ménages jettent les produits non utilisés à la poubelle ou les jettent dans l'évier. Donc, ce qui montre qu'ils ne connaissent pas ces recommandations.
La santé, c'est enfin aujourd'hui le prix Nobel de médecine décerné à 2 Américains et 1 Britannique. Les chercheurs décorés ont été distingués pour leur découverte sur l'adaptation des cellules au manque d'oxygène. Pour comprendre, il nous fallait notre spécialiste santé. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
Ces recherches sont très importantes, notamment pour le traitement du cancer, c'est ça?
Oui, alors d'abord, il faut rappeler que l'oxygène est essentiel pour tout organisme. Alors, ça, évidemment, on le sait depuis longtemps, mais le moyen par lequel l'organisme s'adapte aux variations d'oxygène est longtemps resté mystérieux et c'est important de connaître ces mécanismes. Alors, vous citiez le cancer, par exemple. La croissance des tumeurs dépend ainsi de l'apport en oxygène du sang. Ainsi, quand elles ont un défaut d'oxygène, elles en cherchent ailleurs, en se créant de nouvelles vascularisations. C'est ce qui va provoquer, par exemple, des métastases. Ces scientifiques ont identifié en particulier une protéine qui a un rôle clé. Comme l'explique Carole Pessonneau, elle est directrice de recherche CNRS à l'Institut Cochin.
Ils ont mis en évidence comment cette protéine peut s'adapter à cette diminution d'oxygène et donc potentiellement cette protéine peut être une bonne cible soit pour l'inhiber dans le cas des tumeurs solides ou alors pour l'activer dans le cas par exemple d'anémies qui sont très fréquentes puisque l'anémie touche plus de 2 milliards de personnes dans le monde et donc potentiellement des médicaments qui pourraient améliorer l'anémie pour augmenter le taux d'oxygène dans le sang.
Et ce sont ces recherches qui vont permettre effectivement la mise au point de médicaments pour activer le mécanisme de captation de l'oxygène pour l'anémie, on l'a dit, mais aussi pour des maladies cardiaques comme un infarctus, car là, il faudra augmenter l'oxygène. ou de le bloquer dans le cadre de tumeurs cancéreuses.
Merci beaucoup Daniel Messager pour ce prix Nobel de médecine. Quant au Nobel de littérature pour 2018 et 2019, ils seront annoncés jeudi et le Nobel de la paix, lui, sera décerné vendredi à Oslo. C'est alors, pas vous, Fabien.
Non, bah, le suspense est insoutenable. Vous me faites un peu de peine, quand même. Bon. Allez, à tout à l'heure dans Un jour dans le monde, Amélie Perrier. Nous, ce soir, on se demande si ces championnats du monde d'athlétisme à Doha ont montré les limites de l'organisation de compétition dans ce pays-là, ou si les dollars, eux, ont bien la clim. Nous sommes en Autriche, dans le bruit du monde, et puis en deuxième heure, le téléphone sonne avec les directrices et directeurs d'écoles qui ont tous dit, en lisant la lettre que Christine Renon a laissée avant de se tuer, j'aurais pu moi aussi l'écrire, les directrices et directeurs d'école qui sont épuisés, qu'on n'entend jamais, qui ne se plaignent pas, jusqu'à ce qu'ils craquent, ils ont enfin pu le dire la semaine dernière, pendant une journée de grève et une marche blanche aussi, on leur donne la parole au téléphone sonne au 01 45 24 7000.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Elodie Calac, un découpage nord-sud demain, on commence avec le soleil.
Oui, c'est au sud que l'on trouvera le soleil, du sud de l'Aquitaine vers les Alpes et la Méditerranée. Quelques éclaircies de la Gironde vers le sud de la Bourgogne et la Franche-Comté, mais là les nuages seront nombreux. Il fera très doux sur ces régions, 22 à 27 degrés, 24 à Clermont-Ferrand et Toulon et les 27 pour Agen.
Et sinon, en direction le nord, alors sous les nuages?
Eh oui, il faudra composer avec le vent, les nuages, la pluie, de la pluie plus soutenue vers Champagne-Ardenne et la Lorraine l'après-midi. En revanche, de la Bretagne vers le Pas-de-Calais, ça s'éclaircira. Le soleil fera quelques belles apparitions, quelques averses possibles sur le littoral du Finistère et du Cotentin l'après-midi. Et puis là aussi, quelques degrés de plus qu'aujourd'hui, 15 à 22 degrés, 16 à Paris, 17 à Lille, Nancy, Rennes et Tours et 22 à Nevers.